a compris. Donc, prochaine vient de l'équipe de conformité, Maggie et Pam. Venez. Je vous laisserai le microphone dans une minute. Et je vais afficher votre présentation. Pendant ce temps, vous pouvez commencer par vous introduire.
Good afternoon.
Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Maggie Serraj. Je suis à la tête du département de la conformité contractuelle et je suis très heureuse d'être ici avec les nouveaux venus. C'est toujours une grande opportunité, une grande possibilité de faire le marketing sur ce que l'on fait parce que cette audience, nous, avec cette audience, nous célébrons nos accomplissements et nous espérons faire la même chose pour vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans l'audience, nous avons Pam Leroux, qui est aussi directeur de notre équipe, senior directeur de notre équipe. Et nous avons un nouveau venu qui vient nous rejoindre il y a quelques semaines, c'est Jacques. Au téléphone, nous avons beaucoup de nos membres de personnel qui participent de plein de tous les coins du monde. Alors l'objectif de la journée aujourd'hui, c'est de vous donner une vue d'ensemble de la conformité contractuelle. Et nous allons laisser un peu de temps à la fin pour pouvoir accepter vos questions.
So, our agenda is to share with you.
Notre ordre du jour, c'est de partager avec vous ce que c'est que la conformité contractuelle. Comment est-ce qu'on s'assure et comment on met en place nos et qu'on renforce nos contrats. Pourquoi est-ce que c'est important? Pour être dans le département de conformité, on doit vraiment aimer ce que l'on fait parce que la satisfaction dans ce travail vient du fait que de ce qu'on fait, de ce qui se passe, des résultats. Des résultats, c'est la communauté ICANN et la conformité vise en interne de l'Internet et la sécurité de l'Internet. Si vous avez été sur le site ICANN, beaucoup d'entre vous sont allés sur ce site, vous avez fait des recherches déjà. Nous faisons partie de ce que l'on appelle le personnel ICANN. Nous sommes dans la case personnelle. Regardez ce modèle multipartite compliqué. Nous faisons partie du personnel, mais nous donnons des services de façon différente. Nous avons des parties prenantes multiples, nous avons des groupes d'intérêts différents, des idées différentes, des attentes différentes. L'organisation de conformité, comme nous sommes établis depuis la dernière réunion ICANN, nous avons donc 4 nouveaux membres. Nous croissons encore. Nous avons des possibilités additionnelles de croissance. Donc aujourd'hui, nous sommes 12 membres dans ce département. Et tous ensemble, dans le personnel, nous pouvons parler 7 langues. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est très, très important. Ça devient très pratique quand nous faisons face à des membres de communautés différentes. Des fois, des clarifications doivent être faites, des discussions, de comprendre les cultures, parler dans les nuances des différentes langues. Ça nous donne une meilleure compréhension et ça donne une perspective différente que de parler l'anglais, qui est un langage commun pour tous d'entre nous. Mais des fois, adresser le problème et parler dans un langage langue native et comprendre ce problème ou ce défi, ça nous aide à devenir, à nous améliorer dans notre travail. L'organisation aujourd'hui s'est groupée en 3 grands domaines. Nous avons une équipe cœur qui est constituée de 9 personnes qui met le point sur les perspectives de conformité pour les registraires et les registres. Et nous avons des experts sur les sujets dans différentes matières, différents domaines, mais nous collaborons tous et nous fonctionnons de façon croisée pour pouvoir livrer sur l'aspect de conformité contractuelle. Nous avons des membres qui font des audits et des risques pour gérer les risques et les audits. C'est vraiment compris dans le département des conformités. C'est la même chose pour mesurer les performances et pour faire les rapports. Parce que c'est très important de regarder nos données pour voir internellement, de façon interne, comment on adresse nos défis, nos plaintes, nos problèmes pour qu'on puisse aussi communiquer, donner une mise à jour vis-à-vis de la communauté, pour voir où nous en sommes. Donc, la conformité contractuelle, nous avons souligné le mot « contrat ». Parce que si vous travaillez dans quelque corporation ou autre part, vous savez qu'il y a toujours un aspect de conformité, que ce soit au niveau de la corporation ou d'autres aspects. Disons, nous, notre domaine, c'est la conformité contractuelle. Nous utilisons donc le contrat comme notre outil de conformité. Donc, ce qui est écrit dans cet accord entre l'ICANN et donc la partie contractée, c'est un ensemble de normes et de règles. Et donc, le contrat, c'est la base de notre rôle. Avec qui nous avons donc ces contrats? J'espère que, je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec le mot registraire et registre. Est-ce que vous êtes tous très familiers avec ces termes? Oui. Donc, les registraires sont les compagnies qui enregistrent les noms de domaine. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons à peu près 1000 d'accréditation, d'accords d'accréditation de registraires qui sont signés. Ce sont donc des contrats qui sont signés avec des registraires que nous donc surveillons et nous renforçons donc la conformité avec ces gens-là. Il y a deux contrats qui existent aujourd'hui. Le vieux contrat, comme on appelait le 2009, le 2001 RAA, qui était fait au départ. C'est un contrat donc plus ancien. Et ces contrats sont devenus, sont arrivés à date d'expiration. Les nouveaux ont maintenant rentrent avec ce qu'on appelle les contrats 2009 RAA. Ce contrat 2009 a des éléments plus meilleurs, plus de protection pour les registrants, les gens qui sont enregistrés. Il y a plus, c'est plus évolué. Il y a des amendements qui peuvent être faits au contrat. Ça peut devenir une nouvelle version d'un contrat alors qu'on fait des amendements. Nous travaillons donc dans ces deux domaines de contrat. C'est pas seulement le contrat que nous regardons au niveau de la conformité. Je peux aussi, avec ICANN, il y a donc des politiques de consensus qui sont publiées sur le site web. Nous vous donnerons un bon niveau de ce qu'elles sont pour que vous puissiez mettre ça en perspective. Si vous êtes dans cette communauté, ce serait donc bien que vous soyez familier avec toutes ces politiques aussi. Nous donc fournissons un lien au directoire des registraires qui est aussi sur le site ICANN. Un autre ensemble de contrats que les parties appellent les opérateurs de registre, ce sont les compagnies qui gardent les dossiers maîtres pour tous les domaines. C'est les trois lettres après le point, quel que soit le niveau de domaine. Ce sont les registres. Et nous avons 18 donc accords de registre, donc les domaines, par exemple, comme .com, .net. Ça s'appelle donc les domaines de premier niveau, TLD. Nous avons donc 18 accords aujourd'hui, ces accords, ces contrats. Même si nous avons 21 TLD, quelques opérateurs de registre en opèrent plus d'un. Donc nous avons aussi cette liste sur le site ICANN.org. Donc aujourd'hui, nous avons des contrats avec les registraires et les registres. Ce diagramme, nous essayons d'ailleurs de refléter cette relation, de montrer cette relation. Alors que vous êtes plus inclus dans la communauté, engagés dans la communauté ICANN, vous serez soit un registraire, soit vous travaillerez pour un registre. Quel que soit votre engagement vis-à-vis de la ICANN, vous aurez des questions dans des domaines. Vous aurez donc des questions sur ces domaines. Donc aujourd'hui, voyez les grosses flèches que vous reflètent les contrats que nous avons aujourd'hui avec donc les registres et les registraires. Donc les registres aussi ont un accord avec les registraires. Ce qui veut dire que si un registraire décide d'utiliser un domaine de premier niveau et de faire du marketing dessus et de le vendre, il y aura donc un accord qui sera fait avec l'opérateur du registre pour fournir ce service. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont déjà un nom de domaine ou un site web ou quelque chose que vous utilisez, sur lequel vous utilisez Internet. Donc, on vous dans ce champ d'application, vous êtes un registrant. Donc, vous êtes le consommateur de ce DNS, cet espace. Donc, lorsque vous allez acheter ou créer un nom de domaine, vous vous engagez vis-à-vis d'un fournisseur de services qui va vous donner ceci, va vous fournir ce service, donc, et c'est un accord entre vous et le fournisseur de services. Beaucoup de registreurs s'engagent avec d'autres parties qui sont des revendeurs. Donc, gardez ça en tête, alors que vous allez vous inclure plus dans la communauté EGAN, vous allez apprendre toutes ces formules de conformité, parce que ce sont des hauts niveaux d'attente que nous avons. Même si vis-à-vis du contrat, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aux registrants. Maintenant que vous savez quel est notre champ d'application, la complexité du modèle ICANN, vous pouvez comprendre comment nous avons, quelle est notre vision. Nous voulons être en confiance. Nous voulons être un fournisseur de services. Nous voulons qu'il y ait de la confiance vis-à-vis du fournisseur de services. Nous voulons que cette confiance soit gagnée. Il vous a montré comment notre modèle est complexe et divers. Notre modèle multiparti est très divers. Donc, il y a beaucoup de membres de communautés différents, beaucoup de ce qu'on appelle, nous, des constituants, des parties prenantes. Donc, de façon à livrer un service et être conforme, nous devons avoir des choses qui soient basées sur les faits, sur la transparence, sur la communication. Et en espérant, avec cette approche, nous pouvons gagner la confiance de la communauté. Comment est-ce que nous nous assurons de la conformité contractuelle? Nous disons que c'est une culture de conformité. De notre modèle multipartie prenante, nous essayons de mettre en place une approche qui part de la base, ascendante. Nous avons des parties avec lesquelles nous avons des accords. Nous avons lancé, et maintenant c'est dans la phase pilote, l'aspect ascendant du triangle. Vous verrez, ça s'appelle c'est une industrie, une bonne pratique dans l'industrie. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons pris les domaines plus importants d'un contrat et nous avons créé des questions et nous avons construit un questionnaire pour nous aider à mener un audit annuel ou une self-assessment. Une auto-évaluation, pardon. Nous attendons à ce que les parties qui sont incluses dans les contrats nous répondent avec des faits et qu'ils peuvent aussi prendre parti pour former leur propre personnel ou pour qu'ils aient une liste et qu'ils puissent se dire, faire leur propre liste et se dire, est-ce que je suis conforme toute l'année? Donc, ça, c'est encore dans la phase pilote. Nous voulons vraiment tester cet outil. Nous voulons voir comment est-ce que la réponse va nous revenir? Est-ce que c'est facile à comprendre? Nous voulons aussi voir quelle est notre perspective. Est-ce que nous obtenons la bonne information? Combien de temps cela prend de comprendre tout et de procéder à de lire tous les faits qui nous sont envoyés? Quel genre de format nous pouvons utiliser? Donc c'est la phase pilote qui va être conclu d'ici le prochain trimestre. Nous allons donc faire à la suite de cela une analyse. Nous allons voir quelle réussite nous avons eue. Et comme ça, nous saurons ce que nous allons devoir faire pour pouvoir continuer sur ce projet. Donc, dans la pyramide, vous voyez aussi les différentes phases de la conformité contractuelle. Les activités préventives, qui sont les résolutions informelles avant que les résolutions deviennent formelles. Notre objectif, c'est de travailler avec les parties donc contractuelles pour les amener vers la conformité. Comme nous savons tous, beaucoup d'entre elles seront en conformité, mais il y a toujours des mauvais acteurs, n'est-ce pas? Et s'ils ne sont pas conformes, nous devons aller vers ce que nous appelons la résolution formelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, au niveau de la perspective et du procédé, disons, ce n'est pas vraiment une carte de procédé. Vous savez qu'il n'y a pas, c'est pas vraiment le diagramme qu'il faudrait faire. C'est pas exactement ce que vous avez l'habitude de voir. Nous voulions faire un format qui soit visible pour tout le monde. qu'est-ce que nous faisons avec les parties contractuelles. Quand nous recevons des plaintes à gauche, par exemple, vous allez voir, nous recevons donc les plaintes sous des formats différents et à travers nos outils que vous pouvez trouver sur notre site web, les plans, il peut y avoir beaucoup de plaintes. Notre objectif à long terme, c'est de centraliser nos outils en un système de plaintes. Et différents systèmes ont été rajoutés durant les années passées. Et maintenant, nous avons trois différents outils que nous utilisons. Nous espérons consolider tout cela et nous avons un plan qui va être mis en place. Donc, une plainte ou une question est donc apportée à l'équipe de conformité. La première chose que l'équipe fait, c'est d'évaluer est-ce que ça fait partie des obligations contractuelles de conformité. Est-ce que c'est quelque chose qui a assez de fait, quelque chose que nous pouvons suivre ou est-ce qu'on doit faire plus d'enquête, on doit poser plus de questions. En fait, il faut garder en tête que ce sont des mesures préventives, ce sont des résolutions au départ qui sont préventives et informel. Nous collaborons avec les différentes parties et il y a une approche en trois étapes. La première étape, nous leur demandons de nous envoyer les informations parce que si cette plainte est arrivée et si les gens demandent, on se demande si est-ce que c'est légitime, avez-vous fait ça, ça et ça. Et si une autre plainte peut aussi être c'est quelque chose sur quelque chose de très très spécifique où il y a vraiment des faits, on va peut-être envoyer donc une petite note en disant c'est une note pour vous, vous n'êtes pas conforme, vous avez tant de jours pour nous apporter des preuves et pour corriger. Et l'idée c'est que nous leur donnons trois chances, trois opportunités, trois façons différentes. La première et la façon la plus facile que nous utilisons aujourd'hui, ce sont les courriels. Pour communiquer beaucoup, bien sûr, on leur demande des faits spécifiques, on leur demande de nous répondre à telle date. Et si nous n'attendons pas par les deux, nous n'avons pas une réponse dans les délais, ou si nous avons une réponse qui ne nous donne pas les informations importantes que nous avons demandées, nous suivons avec la deuxième étape. Et si à la fin du délai, de ce délai-là, nous n'entendons pas parler de ces personnes, nous suivons avec la troisième phase. Donc, il y a encore un courriel, un coup de fil et aussi on envoie un fac-similé. Donc, on essaye d'approcher les différentes manières de communication pour nous assurer que le message est passé. Donc, dans cet espace de résolution donc informelle, c'est donc la collaboration qui est en jeu et c'est ce qu'on appelle encore être en bon standing. Si à la fin de la troisième phase, on n'a pas encore reçu la réponse que l'on espérait, nous allons, au niveau interne, nous allons dans notre département à ce qu'on appelle le renforcement du message. Donc, c'est fait à travers une nouvelle demande. Si vous êtes allé sur le site, nous avons ce qu'on appelle des breach notices. Le public... des notices de violation, pardon. Donc, nous publions pas ça au niveau de la phase informelle. Nous voulons donner le bénéfice du doute. Nous voulons donner un peu le temps de régler le problème. Mais après la troisième note, quand nous arrivons au point de vue, au point de la violation, nous publions les informations sur le site web. Encore avec de violation, ils ont encore un délai pour répondre, pour nous donner les faits et pour donc réparer cette violation. Donc à travers après donc cette phase, si c'est vraiment un mauvais acteur, comme on l'appelle, et qu'il y a des problèmes multiples de non-conformité, la décision est prise. Est-ce qu'on fait une suspension? Est-ce qu'on arrête tout le nouveau business et avec eux et ils restent courants jusqu'à ce qu'ils réparent le problème ou est-ce qu'on termine le contrat? C'est donc basé sur l'historique de la partie en question. Donc, en général, vous voyez la conformité est divisée en deux domaines. Donc, le domaine préventif et le domaine de renforcement de la conformité. Aussi, depuis que je suis arrivée dans l'organisation de ICANN, nous avons mis en place un plan de 3 ans. En tant qu'équipe, Nous avons communiqué ce plan en tant que fournisseur de services au niveau de la conformité. Nous devons faire des rapports sur ce que nous travaillons et comment nous le faisons et ce que nous ciblons. Donc, en 2011, l'année dernière, nous avons fait donc un plan.
Have a standard operating procedures.
Ce que nous faisons, quelles étaient nos procédures. Mais donc maintenant, en 2012, nous appelons ça la phase de transformation. Nous avons un plan que nous mettons en place pour des améliorations. Nous amenons des aspects au niveau des normes et de meilleurs outils. Et nous espérons qu'en 2013, nous pouvons atteindre un système de conformité consolidé et nous pouvons continuer à améliorer. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je fais partie de l'équipe de conformité aussi. Pour les prochaines diapositives, je vais parler de ce que nous faisons et pourquoi cela a de l'importance. Ce que vous voyez ici, c'est que le système de nom de domaine, la hiérarchie, j'espère que vous allez pouvoir voir pourquoi cela a de l'importance, ce que nous faisons tous les jours. La conformité contractuelle de DNS, donc ce système, est très important, c'est une partie importante de l'Internet. L'Internet est devenu une partie importante de nos vies. Donc imaginez un peu la vie sans l'Internet. C'est notre message. Ainsi, ces acteurs, donc à travers cette écologie de l'Internet, jouent donc un rôle important pour continuer à ce que le DNS travaille bien et qu'il y ait la sécurité sur l'Internet. Dans notre travail journalier, nous faisons face à la conformité contractuelle de la CAN. Vous a montré quelle était la carte des contrats que nous avons avec les parties, donc les registres et les registraires. Cela reflète donc tous les problèmes que nous voyons journalièrement. Donc, ce sont des problèmes, des exemples de problèmes, par les disputes de dépôt de marque. Ce sont des choses que nous faisons face avec. Ce sont des fournisseurs de services qui nous aident à résoudre les problèmes de disputes. Il y a des choses qui doivent mettre en place une fois que ces disputes sont résolues pour mettre en place donc les décisions. Nous rentrons donc en jeu quand il s'agit de ces disputes. Il y a des problèmes de choses qui ne sont pas exactes. Inexact. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le « who is » ? Oui, donc en fait, ce sont les contacts des registrants, les informations de contact des registrants pour les domaines. Donc, encore une fois, les données des registrants. Nous faisons face à toutes les inexactitudes, les problèmes d'inexactitude. Les gens nous disent, par exemple, tel nom de domaine a des problèmes, des inexactitudes au niveau de « oui », ils ont des obligations de contractuelles de ce que le registrant doit faire. Donc, il y a des choses qu'on doit faire quand il y a des plaintes d'inexactitude. Il y a aussi des problèmes de transfert, nous voulons dire par là, des transferts internes. Par exemple, je veux transférer mon nom de domaine d'un registrant A à B. Donc, des fois, il y a des problèmes dans les procédés ou il y a des politiques claires qui gouvernent comment ce procédé doit marcher. Il y a aussi des problèmes qui viennent de la partie de revendeur. Vous avez peut-être enregistré un nom de domaine, pas à travers un registraire d'ICANN.
Revendeur ne fait pas toujours la bonne chose, ne transfère pas les noms correctement, il y a le problème de registre d'enregistrement. Nous avons aussi des restrictions d'enregistrement, comme certains d'entre vous dans le salon, nous avons TA, GTL2 en ce moment, et certains d'entre eux sont commandités, sont des registres qui sont commandités par Jean-Point, Truc, X, Triple X. Ces registres ont certains chapitres, voire des périmètres qui peuvent s'enregistrer sur ces noms de domaine dans cet espace. Donc, ce sont les problèmes auxquels nous faisons face journalièrement. Mais sachez qu'il y a les RAA, les contrats, les accords entre les registraires et ICANN, ne presse pas les problèmes qu'il y a entre les activités de l'après-marché, les domaines d'après-marché, après les transferts et ainsi de suite. Mais comme vous le savez, les noms de domaine est aussi un grand marché pour les ventes de domaines ou des enchères. Nous ne sommes pas dans cet espace. Nous, ce sont des transactions privées. Les agences de police ou de vente s'occupent de ces activités. Et ça m'amène aussi à la prochaine diapositive. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent de l'utilisation des noms de domaine, ce que vous voyez sur votre browser. Ce problème, ces questions, ce problème d'utilisation de domaine doit subir en général. Ce sont les agents de protection des consommateurs dans chaque pays ou la police qui s'en occupe. Par exemple, le contenu des sites Internet, le spam, le phishing, le malware ou même le crime cybernétique. Si vous voulez avoir, vous allez donc sur le site, vous aurez donc, vous verrez que nous avons affaire avec le problème de, vous verrez également la différence sur ce que nous faisons, nous occupons, quels sont nos rôles. Il y a souvent des exceptions, mais en général, c'est un bon guide.
C'est juste pour montrer, partager avec les nouveaux venus, surtout certaines personnes ont des misconceptions sur ce que le AAA laisse ICANN faire. ICANN, c'est une partie d'un contrat. Donc, quand quelque chose fonctionne pas bien, les gens disent pourquoi est-ce que ICANN ne fait pas ça ou ça ou ça. Le RAA ne laisse pas ICANN d'adresser le contenu des sites Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou de suspendre un nom de domaine, ou transférer un nom de domaine, ou prendre la suite des opérations d'enregistreur, ou terminer un contrat sans passer à travers ces procédés. Comme Nadia a mentionné, par exemple, donner des notices de violation et ainsi de suite, donc passer de la suspension à la termination éventuellement. Nous ne pouvons pas aussi accéder à la base de données d'un nom de domaine d'enregistreur. Il y a des acteurs différents dans cette topologie et l'enregistreur puisse faire rôle dans. Mais ICANN n'a pas l'autorité technique ou légale de faire ces choses-là. Maggie, tout à l'heure, a parlé des contrats, aussi que les politiques de consensus de l'ICANN en ce moment. Il y a 8 politiques de consensus. Ils gouvernent des domaines différents. Je ne vais pas vous en lire tous ces détails des politiques de consensus. Ils sont tous là, ils sont tous sur le site Internet. Ces politiques de consensus sont toutes incorporées dans les contrats, les accords de registre et les contrats d'accréditation. Et ils sont applicables aux enregistreurs et aux registres. Je voudrais mentionner peut-être deux choses. Les politiques de résolution de disputes de domaines uniformes, c'est un mécanisme pour essayer de résoudre les plaintes cybersquatting. Et ça donne la possibilité d'envoyer un rappel tous les 12 ans enregistrant, tous les 12 mois enregistrant, regarde un peu, vérifie le contact, les informations le contenu de ces informations, et si c'est pas exact, corrige les données. Tout ça, ce sont des politiques qui sont très importantes et qui affectent les propriétaires, les registrants, les consommateurs, etc. C'est encore une fois toutes les politiques. Il y a 7 et 8, par exemple, sont applicables au registre. Dans le prochain, je vais vous montrer, je vais vous partager quelques données avec vous. Ça part de octobre 2011 à février 2012. Nous sommes en deuxième semaine de mars. Le calendrier suit les 3 différentes réunions que nous avons annuellement. Donc nos périodes de rapport sont régulières et suivent donc ces espèces de dates trimestrielles de nos réunions. Le problème de conformité nous, dans le dernier trimestre, comme vous le voyez, la distribution de sur les différents continents, 34% sont venus de 39% de la région Nord-Amérique, 34% de l'Europe et 1% donc de l'Océanie et l'Australie d'où je viens d'ailleurs. Voilà, cette diapositive vous montre de ces plaintes, quels sont les problèmes les plus importants. Vous voyez qu'ils ne sont pas en ordre de volume ou en ordre particulier. Vous voyez que nous avons reçu 16 000 plaintes, plus de 16 000 plaintes. Le WHOS, donc l'université au niveau de WHOS, c'est là où nous avons plus de plaintes. 9 000 et quelques plaintes, nous avons aussi des problèmes au niveau des transferts et du service client. Ces plaintes du service client sont à la base. Je ne peux pas contacter mon enregistreur, je ne me rappelle pas. Ce genre de choses ne sont pas appelées dans le contrat au niveau de l'accréditation des enregistreurs. Donc, nous les catégorisons comme des problèmes de service client. Donc, souvent, nous passons ça au enregistreur. Ces plaintes au registreur, on leur dit, bon, s'il vous plaît, répondez au registre à vos clients et occupez-vous de ces problèmes. Nous recevons donc des plaintes dans tous ces domaines. Comme vous avez, nous avons des. Une fois que nous avons reçu une plainte, nous voyons si nous pouvons, si ça concerne un problème de conformité potentiel. Quand on dit potentiel, ça veut dire que est-ce que c'est vis-à-vis de dans le contrat ou du registre ou du registraire. Si cela fait partie de notre juridiction, donc nous faisons un suivi vis-à-vis de la partie, que ce soit dans le registraire ou le registre. Souvent, ce sont les registraires. Ce sont des plaintes, souvent, des clients qui ont des problèmes avec les interfaces, les registraires. Nous faisons donc un suivi avec nos phases de trois étapes que Maggie vous a montré tout à l'heure. Nous envoyons donc une note où on demande vis-à-vis du registraire. On nous dit, au registraire, on lui dit, voilà, nous avons reçu telle plainte. Qu'est-ce qui se passe? Si le problème n'est pas résolu, nous avons donc l'escalation interne, nous allons de la prévention à l'enforcement et ensuite nous donc envoyons une note de violation. Et en deuxième phase, nous envoyons phase 2, Q2, nous envoyons deux notes au registraire et ensuite une note de suspension, d'arrêt, quoi, de suspension. Dans la prochaine diapo, vous allez voir les détails de ce que je parlais tout à l'heure au niveau du service client. Les plaintes service client, vous voyez, ils parlent des CCTLD. Comme vous savez, ICANN n'a pas de contrat formel avec les opérateurs CCTLD, donc ce n'est pas dans notre autorité contractuelle, on ne peut pas adresser ce problème-là. Par exemple, le problème avec le revendeur, le spam, le contenu, ce n'est pas dans le champ d'application de ICANN. Sur la prochaine diapositive, vous allez voir, je vais partager avec vous les informations démographiques et sur l'origine de ces plaintes et comment la comparaison par rapport au nombre d'abonnés ou de registraires de la région. Si on prend l'Amérique du Nord comme exemple, vous pouvez voir que près de 4 000 proviennent de cette région. Mais cette région a 95 millions de noms de domaines et plusieurs milliers d'abonnés, mais 117 plaintes contre ces registraires. Donc il y a 0,0040% par rapport au nom de registraire et 17,1%. Donc vous pouvez, par rapport au nombre de registraires par région, donc vous pouvez comparer avec d'autres régions. Peut-être que nous devons nous concentrer sur une région particulière parce qu'il y a davantage de plaintes ou de conformité provenant de cette région. Nous avons également des ententes avec des registres. En général, ce sont des plaintes qui portent sur les registraires. Nous recevons rarement des plaintes sur les registraires. Ceux-ci ont une obligation contractuelle de fournir des rapports mensuels à ICANN.
sur la base de le rapport mensuel au cours du dernier trimestre, la période de génération de rapport trimestriel, il y avait 5% de conformité par rapport au dernier SCE en termes de disponibilité et de disponibilité rouise et d'accès ou de registrer un accès équitable au système d'inscription partagé. Tous les registres accrédités ICANN ont cette provision dans l'entente. Ils ne peuvent pas pratiquer de discrimination contre registreur. Tout registreur aura un accès équitable au système d'inscription partagé et pour ainsi fournir des services de registraire. Pour le moment, il existe 10 opérateurs de registre en Amérique du Nord, 7 en Europe et 1 en Asie. Ce paysage peut changer rapidement avec le nouveau GTLD, c'est très rapidement, cela peut changer de manière radicale. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire en termes de la perspective opérationnelle ou des activités, mais je serai heureuse de répondre à vos questions s'il y en a. Je sais que on vous a donné beaucoup d'informations au cours de 30 minutes. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, il y a plusieurs manières de nous contacter. On vous encourage à fournir vos rétroactions, commentaires et vos questions. Si vous avez une question, quelque chose que vous aimeriez discuter avec la conformité contractuelle, envoyez-le à compliance@icann.org pour contribuer au sujet. Mettez le sujet dans la ligne sujet, comme ça on peut savoir à quoi cela traite et qu'on puisse vous répondre rapidement. Vous avez dit que ICANN n'avait aucun contrat avec les SCCTLD. Comment régularisez-vous vos relations, vos rapports? Peut-être que les partenariats globaux peuvent répondre à cette question. Il y a un mémorandum de compréhension qui est une documentation formelle. Mais il y a encore une collaboration au niveau technique entre la gestion de la RAS et la ICANN et les CCTLD en termes d'opérateurs CCTLD et au sein du pays, mais en termes de contrats liant les parties, pas vraiment. Il y a un document, le MOU, le mémorandum d'entente. C'est ce que j'ai compris de la chose. Peut-être que d'autres employés ICANN pourraient répondre à cette question parce que nous ne considérons pas qu'il s'agit d'un contrat, mais d'un cadre de travail, de collaboration. Une question? Que se passe-t-il s'il y a un problème entre ICANN et le registreur? Et vous devez suspendre l'application ou le résilier ce contrat. Que se passe-t-il par rapport à cette entente? Le contrat d'inscription par rapport au registrant. Je parlais de la suspension d'abord. La suspension du registraire n'est pas imposée, mais uniquement des suspensions de l'activité du registraire. Cela ne permettrait pas. Le registraire ne peut inscrire de nouveaux noms de domaine et ne peut initier des transferts inbound vers entrant. Donc, le reste de l'activité demeure la même pendant cette période de suspension. Il s'agit tout simplement d'une sanction temporaire. Cette suspension n'affecte pas les inscriptions existantes sponsorisées par ce registraire et soumises à cet avis de suspension. Lorsque nous avons une résiliation ou un avis de non-renouvellement de ce registraire, ICANN a élaboré un processus de transfert en gros pour transférer le domaine à un autre registre accrédité. Il y a tout un processus de documentation dans notre site web. Dans certaines circonstances, il y aura RFP comme une une expression d'intérêt pour une période publique, comment on peut éventant les registraires à soumettre des offres, une offre aux enchères pour prendre ces domaines, nom de domaine, et établir des critères pour déterminer quel registraire serait mieux approprié pour reprendre ces inscriptions. Donc, notre objectif ultime est de protéger ces registrants. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Je sais que ce n'est pas vraiment une question pour ICANN, mais est-ce que vous avez eu de... Vous avez participé, vous êtes au courant de la polémique sur la polémique qui a entourant Mega Upload ou le site bulldog.com de téléchargement. Si vous allez à ICANN.org, vous verrez le PDG de son blog d'hier. On n'a rien à voir avec cela. Aucun pays ne s'est plaint. Aucun pays ne s'est plaint. À nous, je sais, saisi, je ne suis pas au courant de ces plaintes. Je ne suis pas, je n'ai pas partagé ce processus, mais nous n'avons rien à faire avec ces questions, en fait. Nous allons... répondre à la question sur à une question à distance personnelle de conformité à Marina Del Rey a posé la question à distance, mais nous allons la lire à haute voix pour que vous puissiez comprendre la question. Cela vient de Matt. Quel est le statut de l'arbitrage des jobs? Pourquoi est-ce que ça fait 9 mois que l'arbitrage a été soumis et ICANN permet qu'il soit mis de côté au lieu de poursuivre l'action de manière agressive? La réponse vient de Khalil Rachid, de l'équipe de conformité. L'équipe de conformité ne peut traiter de questions internes, surtout les questions juridiques et d'arbitrage concernant l'organisation. Si vous allez sur le site web ICANN, il y a des affichages sur cet arbitrage. Vous allez voir les... Donc, nous avons les mêmes informations que celles qui sont affichées à cet endroit. Une autre question en ligne? Il y a une question de Fatal Hassan portant sur l'opération CCTLD. Si l'opérateur CCTLD administré par un pays ou dans le gouvernement dans un pays n'arrive pas à assurer des services fiables, est-ce que ICANN peut jouer un rôle? Et Pam me l'a dit, je peux prendre la question en ligne jusqu'à l'Orienté Vert, à nos représentants CCTLD, et puisqu'il s'agit d'une question ici, je peux également je pourrais vous redonner la réponse ici. Carla Valenti du personnel ICANN, vous pouvez m'entendre? ICANN ne peut rien faire au sujet des CCTLD s'ils sont administrés par le gouvernement ou des universités ou peu importe. C'est l'entité qui gère le CCTLD. Ils ont la souveraineté sur leur propre politique. Merci. Janice, est-ce que nous avons d'autres?
dans l'espace chat. Camille est en ligne. Tout le monde peut participer dans l'espace chat également. Merci beaucoup, Maggie et Pam, pour cette présentation. Vous voulez clore ou bien avant que je nous termine? Toujours, j'aimerais vous dire que c'est toujours bien de présenter dans le cadre de ce forum. On a fait déjà au cours de la dernière réunion à ICANN. Merci pour votre temps, mais nous vous aimerions vous encourager à devenir active au sein de la communauté, s'il vous plaît. Si vous avez des questions et des demandes de suivi, dites-nous et bienvenue à la communauté ICANN. Et j'aimerais ajouter une dernière chose. Nous avons beaucoup d'informations affichées sur le site web ICANN, la page de conformité à la contractuelle. Assure également beaucoup d'informations. Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez consulter le site web. Merci.
Well, our next, la prochaine présentation va venir donc dans 10-15 minutes. Normalement, nous devrions continuer parce que nous avons nos collègues ici. Nous n'allons pas décevoir les gens qui sont, que les gens aient à ajuster leurs horaires, les gens qui sont distants. Donc, on va prendre une petite pause parce que tout à l'heure, notre pause était un peu courte. Donc, prenez notre petite pause et puis revenez à 4h, à 16h. Donc, merci.